Bonjour à tous et bienvenue dans le Mug Nowtech. Nous sommes le 3 juin 2022 et on attaque tout de suite. Et bonjour à tous, comment ça va les gens? Bienvenue dans le mug, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes un peu plus réveillés que moi. Salut Techni Savoir, micro coupure son, c'est vrai? Il y a des petits soucis? Non, 5 sur 5 je crois, ça doit venir de toi. Ciao Guacaroni, il n'y a pas de soucis, tu as le droit d'avoir tes préférences pour le mug, il n'y a pas de problème. Salut à tous, en tout cas salut le tutorien, salut Nerolf, salut Samuel, comment ça va? Est-ce que le son... Non, pas de problème de son, on est bien d'accord. Bonjour à tous, mal dormi, Techni Savoir, mais c'est pas grave, t'inquiète pas, je vais te réveiller, enfin j'espère, en douceur, promis. Salut à tous, salut tes curieux, salut, merci Alias Lu pour ton 23e mois d'abonnement, merci beaucoup, c'est très cool de nous soutenir malgré le fait que nous ayons un sponsor qui soutienne l'émission en effet, mais... voilà, ça régale, les salaires sont toujours à payer et évidemment vous me connaissez, hein, mon salaire délirant pour payer le yacht à Malte, hein, yacht qui pour l'instant, regardez les économies qu'on fait, on partage un yacht avec Jérôme en ce moment. Voilà, on l'a pris à deux parce que Nowtech ça va mal, donc on a dit bon quand même le yacht tout seul c'est un peu une dépense exagérée, nous allons le prendre à deux, voilà. Non, pas de jet privé, le jet privé, c'est pas écolo. Salut Linda, première fois sur Twitch et sur la chaîne, bah, bienvenue à toi Linda, installe-toi confortablement dans un siège, dans les transports en commun, dans ton lit, c'est comme tu veux, bienvenue dans le mug, on va parler de tech et de société ce matin, voilà, bienvenue à toi. Comment ça va? Ça va bien Camille, merci, c'est gentil. Les petits fous à Roland-Garros. Oui, Jérôme vous a vendu du rêve concernant le fait que je suis allé à Roland-Garros. C'était très sympa. Je vous assure que j'ai pas forcément passé une si bonne soirée que ça. Je sais que ça fait très contradictoire. La vie des influenceurs rêvés. Non. On bosse. Je vous garantis qu'on n'était pas en mode petit four du tout. Non. On taffe, on a fait des belles images. En gros, c'est une OP avec une marque de téléphone. Et en gros, on va faire des belles images. Et on est content de pouvoir les faire justement à Roland-Garros. C'est pas un truc qu'on peut faire tout le temps. Donc, vous aurez des photos plutôt sympas. Voilà. En plus, je peux le dire, c'était avec Oppo, il y avait des stories, il y avait marqué Oppo sur la marque. En plus, j'ai fourché, donc voilà. Guillaume Spoilman, toujours présent. Non, mais de toute façon, il y a les stories, donc je veux dire, il y a rien de caché du tout. Non, et puis il y a eu des petites galères, des trucs mal gérés. Donc voilà, non, mais après, je me plains pas. Hein, métier très cool, voilà, n'exagérons pas non plus. Mais on bosse, quoi. Et on bosse et on a bossé jusqu'à minuit avec Dina. Donc non, c'était du boulot. On a beaucoup tourné, c'était chouette. De quoi une Oppo avec une marque de téléphone? Exactement. Salut Sultan, bienvenue à toi. Papy Jérôme est en week-end. Non mais il faut arrêter avec le papy Jérôme, c'est pas possible. Hein. C'est pas possible. S'il est papy, moi j'ai 5 ans, et demi. Hein. C'est pas impossible. De juillet à mi-septembre, il y aura seulement un mug par semaine. Oui, tout à fait. Ça, il faut bien l'avoir en tête, mesdames et messieurs. Pendant les vacances, les grandes vacances, il y aura un mug récap de la semaine, chaque semaine. Voilà, il n'y aura pas un mug tous les matins. Il est jeune dans sa tête, bien sûr. Mais c'est dans la tête tout ça, vous le savez bien. Salut KZ, bienvenue à toi. Truc mal géré, toast au saumon, trop chaud. Même pas. Même pas du tout. La plus OP. Ouais, bon, ça va, je me réveille. Hein. Je me réveille. Non, mais en plus, encore une fois, il n'y avait rien de spécialement caché. Voilà. Papy Jérôme est plus en forme que nous. Je sais pas. Salut Pigaf, à 8h ou plus tard. De quoi j'ai pas la rêve. On est là pour parler de tech. Hein. Mais si vous voulez, on peut reparler de Roland Garros plus tard. Si vous voulez, tous les détails croustillants, bien sûr. J'ai plein de... Je pourrais vous raconter tellement de trucs sur... sur aïe 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 aïe, je pourrais raconter des trucs mais je vais pas le faire. Aïe aïe aïe, mais j'ai envie de teaser des choses, mais non. Et oui, un seul mug par semaine pendant les vacances. On fait une pause de 2 mois, un bon repos, parce que faut pas croire, mais se lever très tôt pour préparer une émission. Et c'est aussi dur que d'autres métiers, hein, et c'est pas, voilà, on fait pas de comparaison quoi, mais Jérôme il se lève quand même 3 fois par semaine très tôt, pour enchaîner direct sur une matinale. Moi je le fais une fois par semaine, donc c'est relativement ok, mais c'est crevant. Et donc on va dire que principalement pour le coup, Jérôme et toute l'équipe du Mug a besoin de son repos, de recharger les batteries et de prendre du recul sur l'émission, c'est important. Savoir si on est dans la bonne direction, voilà. Hugo Décrypte a interviewé Bill Gates. Ouais, j'ai vu. D'ailleurs, j'ai capté Hugo Décrypte hier. C'était cool. Je l'ai croisé dans un truc, dans un petit truc de Maison du Futur, blablabla. Bla bla. Donc j'ai croisé Hugo Décrypte. C'est même lui qui m'a reconnu en premier. Incroyable. Non, on s'était déjà plus ou moins vu à une soirée il y a un moment. Salut Swain Live. Bienvenue à vous tous. Salut, salut. Comme tu l'as dit hier, seuls les modos arrivent à suivre le chat. Les présentateurs sont dans les choux. Il y a forcément des messages qu'on va louper. Pas du tout agaçant le côté je pourrais vous dire des trucs, mais je le ferai pas. C'est juste pour vous embêter. Peut-être que je révélerai des trucs en fin d'émission. Va falloir rester pendant toute l'émission. Oh là 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 là, quel dommage. Oh, la technique de niveau zéro de la rétention d'attention, quoi. Bref. Laissez Albert faire les mugs pendant 2 mois. Qu'est-ce qui peut mal se passer? On adore Albert. On l'aime beaucoup. Très sincèrement. Mais Albert peut avoir des moments un peu freestyle, qui sont pour vous très rigolos, mais des fois qui peuvent être un peu violents. Donc voilà, mais non, mais on l'adore. On l'adore. Mesdames et messieurs, nous sommes là pour parler de tech, bien sûr. Et ce matin, on va parler de pas mal de choses assez intéressantes. On va parler entre autres, est-ce que la scène va fonctionner? J'imagine que non. Oh, j'ai pas ma petite scène navigateur. Elle a disparu. Où est-ce qu'elle est? Bah, tant pis, je vais le faire à la souris. Nous allons parler d'un fond orange, pas du tout. Nous allons parler ce matin de Google, la bonne décision de Google, incroyable Google, qui fusionne ses applications Duo et Meet. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? On va en parler. On va parler de Starlink qui est de nouveau autorisé en France. Nous allons parler d'iPadOS 16 qui va avoir une grosse mise à jour très intéressante. Nous enchaînerons ensuite avec vous avez peut-être vu passer l'article, le terme streamer n'est pas autorisé en France, on n'a plus le droit de dire streamer. Eh bien non, c'est plus compliqué que ça, on en discutera. Et on terminera, si on a le temps, avec un article de Slate sur une étudiante qui a été accusée de tricherie par une IA. Et ça pourra permettre un gros débat. Nous parlerons de notre merveilleux sponsor Oni et de leur solution 3x4x. Et donc ça sera vers la milieu fin d'émission. Et on terminera avec un débat et un article un peu étrange de The Verge sur la durée de vie, l'autonomie de la Pixel Watch. Un seul jour d'autonomie. L'article dit que c'est ok. On en discutera ensemble. Et je vous propose qu'on attaque tout de suite le Kawa. C'est parti. Non, ce qui se passe, c'est que on a... Salut François, on a échangé, ça fait plusieurs fois qu'on échange avec Jérôme parce qu'on a des emplois du temps qui coïncident pas trop avec le mois qui fait le jeudi matin et Jérôme le vendredi. Donc en fait, souvent, on permute les mugs pour éviter d'être trop KO. Parce qu'effectivement, le boulot et le tournage jeudi soir s'est terminé vers... au final, on a fini vers minuit, mais on est rentré vers 1h, 1h30. Donc, dormir de 2h à 6h pour faire un mug, c'est un peu dur. Donc Jérôme a pris le relais sur hier matin. Voilà. C'est tout. C'est bien, tu fais le sommaire avant de lancer le générique. Ouais, c'est un peu mieux. C'est effectivement un peu mieux. Alors que toi, des moments freestyle, c'est pas le genre de la maison. Il y a moments freestyle et moments freestyle, Olek. Il y a moments freestyle rigolo, un peu mec naïf, et voilà. Et un peu de gauche, bien sûr. Et il y a freestyle à la Albert. C'est freestyle qui peut dérape Twitter, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Olek, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. On va commencer et on va parler de Google. Tac, et on va montrer l'article immédiatement. Google qui fusionne ses applications d'appel Duo et Meet. Ça, c'est intéressant, surtout si vous êtes très Google sur vos solutions perso et pro. Même une fois, je me suis couché à minuit. Oh là là, j'étais fatigué le lendemain. Je sais pas, ça dépend à quelle heure tu te lèves. Ça dépend, hein, des fois on dort bien. Bah, j'ai pars dans les graviers, c'est terrible. Ok. Google donc qui fusionne effectivement Duo et Meet, et c'est une bonne décision de la part de Google, parce que c'est vrai qu'on connaît plutôt Google quand même pour la multiplication de leurs services. Là, ils font l'inverse. C'est plutôt chouette. Google a annoncé mercredi la fusion entre Duo, son application d'appel vidéo, et Meet, son application de visioconférence. Plus tard dans l'année, l'application Duo sera rebaptisée Google Meet, créant ainsi un service de communication vidéo unique et gratuit à travers Google. Avant de renommer l'application Duo, Google lui ajoutera les fonctionnalités actuellement dispo dans Meet, donc pas de perte de fonctionnalités a priori. Parce que ça, c'est une grande spécialité de Google. Les utilisateurs de Duo pourront alors, entre autres, programmer des réunions en avance, personnaliser des arrière-plans virtuels. Ouais, trop bien, vous allez pouvoir mettre un fond d'écran Malte. Utiliser le chat lors d'une réunion et utiliser le sous-titrage en temps réel. On est d'accord, Fabrice, hein, les applis faisaient fondamentalement la même chose. Après, je les utilise pas beaucoup, clairement. Mais effectivement, les applis faisaient des tâches extrêmement similaires. Toutefois, les utilisateurs de Duo peuvent également être assurés que les fonctions d'appel existantes ne disparaîtront pas. Google qui est vraiment obligé de rassurer puissance 1000. Mais ils ont raison, il faut. Notamment la possibilité de lancer un appel vidéo à l'aide d'un numéro de téléphone ou d'une adresse électronique. Ça, c'est cool de pouvoir faire un appel avec une adresse électronique. C'est vraiment un truc qui manque sur Signal, par exemple. Signal, le fait d'être obligé d'avoir le numéro de quelqu'un, c'est trop chiant. Il devrait vraiment faire un compte email. D'ailleurs, c'était prévu, je sais pas où ça en est sur Signal. Le fondateur de Signal avait dit que ce serait possible. Pas d'infos depuis un an ou deux, c'est un peu chiant. L'historique des conversations, les contacts et les messages continueront d'être enregistrés dans l'application. Et il n'y aura pas de nouvelle application à télécharger. Pour Duo, Google a récemment introduit de nouvelles fonctionnalités comme les appels de groupe jusqu'à 32 personnes. Ça, c'est vraiment le confinement qui a permis ça. L'ajout de Doodles et d'effets amusants avec le mode famille, ainsi que les appels vidéo sur les tablettes, les appareils intelligents et les téléviseurs. Pour Meet, depuis qu'il a été rendu disponible gratuitement pour tous les utilisateurs, Google a déployé plus de 100 fonctionnalités et améliorations. Est-ce que dans le chat, ça utilise Google Meet et Google Duo? Je vous avoue que de mon côté, absolument pas. Alors on l'a utilisé professionnellement Google Meet, Jérôme, je dis pas de bêtises je crois, hein, mais on a fait des Google Meet récemment, il y a beaucoup d'entreprises qui l'utilisent, c'est assez robuste, ça marche bien, est-ce que vous utilisez ou pas? Salut Axel Balt, merci pour ton Prime, c'est très gentil, merci de nous soutenir. Microsoft Teams, hein. Ouais, beaucoup de gens sont très Teams, non j'y comprends rien, non mais Techni, t'as pas 150 ans, Techni, tu peux, c'est pas compliqué. Franchement, je te garantis, Duo et Meet sont pas compliqués comme appli. Autant, je peux reconnaître que certaines applis Discord, au hasard, sont vraiment galères. Hop, attendez, je vais remettre le micro, hop, plus au milieu. Autant Duo et Meet, non, ça va. On a quelques calls en Meet, ouais, tout à fait. Je fais pourtant beaucoup de visio avec le taf et jamais de Meet ou de Duo, ouais. Ma société est full Google, ok. Salut Wafid, bienvenue à toi. J'ai beaucoup utilisé Google Duo pour garder le contact avec mes filles, c'est vrai que c'est pratique. Ouais, mais t'as raison. Hein. Jamais utilisé Meet, jamais utilisé, même pas au taf, Teams et Zoom. Ouais, Zoom, moi j'utilisais beaucoup quand je bossais en dev. Et la boîte avait migré sur Zoom à peu près au moment où je suis arrivé. Putain, quel bonheur. Parce qu'avant, c'était Skype. Oh là là, Skype, c'était vraiment... Yeah, c'était dur. Chez Google, ils utilisent Meet. Ah bah, j'espère. T'imagines, chez Google, ils utilisent Zoom. La loose. La méga loose. Je préfère Teams. Ouais, Teams, c'est vraiment bien, les gens. Jamais utilisé, moi. Je sais que c'est préintégré dans Windows. C'est vraiment, vraiment bien, Tim, c'est robuste, ça marche bien. Yo, Flonflon, comment tu vas? Skype, ils ont fait une mise à jour récemment, c'est devenu encore pire. Non, mais Skype, c'est un suicide, hein. C'est vraiment, c'est du sabordage. Hein. Google Suite au boulot, mais beaucoup plus Slack que Meet. Ouais, Slack, ça reste surpuissant, je trouve. Bof, Teams. Meet, c'est quand vraiment on a besoin. Teams, c'est vraiment cool. Ok, ça, c'est très le chat. Le chat Twitch, c'est pourri, c'est très bien. À deux messages d'écart. Teams, c'est horrible la gestion du matos d'entrée et de sortie. Ouais, Tim, c'est très bien. Tim, c'est un enfer. J'adore. Mattermost. Ah, tu utilises Mattermost. Il n'y en a pas beaucoup, hein, des gens sur Mattermost. Je suis végétarien, donc pas de Google Meet pour moi. Excellent, bien sûr. Tim, c'est un agglomérat de Link SharePoint. C'est Slack à la Windows. Ok. Tim, c'est l'enfer de Luc sous Mac. Luc ? Tim, c'est en train de faire une percée dans les entreprises. Sinon, la vraie vie, vous connaissez. Ah non, Flonflon, t'as pas le droit. T'as pas le droit. Non, c'est terrible. C'est terrible. Tim, c'est bien pour la visio à plein de monde, mais pour le reste, c'est vachement moins bien que Slack. Ouais, nous, j'avoue que par certains moments, je regrette un peu Slack. Discord, c'est chouette. Mais putain, les conversations, les fils, les threads sur Discord, ils ont voulu rendre ça payant. En fait, c'est simple. Discord a voulu rendre ça payant. Parce qu'il y a une limite de durée de vie sur les threads. Ça les rend imbuvables. Et j'espère qu'ils s'en rendent compte que les threads sont très peu utilisés. Boomer. Ce qui est pratique avec Google Suite, c'est qu'en créant un événement dans le calendrier, il crée automatiquement un meet et pas besoin de parler, de partager ouais, le lien. Il est déjà dans l'événement. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Guillaume, c'est quoi les différences entre Meet, Zoom, etc. Vous pensez en faire une vidéo? Ouah, c'est pas prévu. On aurait pu faire ce genre de vidéo pendant le confinement. Mais là, je vais t'avouer que c'est plutôt une vidéo pas passionnante, quoi. Salut Vrodka, bienvenue à toi. Question, est-ce que Meet et Monsieur Curiosité que duo? Je ne sais pas du tout. J'ai pas du tout ce genre d'infos. L'avantage de Teams, c'est que c'est intégré à Microsoft et donc la gestion des comptes est hyper simplifiée. C'est vrai. C'est vrai que le meilleur outil, c'est finalement celui qu'on a sous la main, bien sûr. Slack, c'est cher, ouais. Slack, c'est un peu des filous, hein. Ils ont fait ils ont commencé à bien s'implanter partout et leur forfait est hyper cher, quoi. Ah, dans ma boîte, ils viennent de passer de Microsoft à Google. Ok. Putain, vivement qu'il y a un acteur européen quand même. Hein. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que quand t'es une entreprise, t'as pas trop d'acteurs européens qui sont très bons dans ces services-là. Zoom, c'est quoi? Zoom, c'est chinois, non? Américain? Zoom Communication. Attendez. Zoom Video Communication. Zoom Meetings. C'est quoi? Fondateur. Non, c'est américain. Ouais, donc c'est vraiment... turbo américain, quoi. C'est dommage, il n'y a pas de solution vraiment européenne. Je suis admin réseau, je gère les accès Microsoft, c'est juste la définition inverse de l'intuitif. Mais ça, Matanakin, c'est Microsoft, tu le sais bien. Putain, on avait eu des cours il y a longtemps, là, quand j'étais en études, des cours de... Comment ça s'appelle le truc dans Windows pour gérer les comptes utilisateurs? Comment ça s'appelle déjà Microsoft? Dans le chat, vous allez la voir. Active Directory. Comment vous dire que ce n'était pas les cours les plus passionnants du monde? Alors apparemment, c'est quand même très puissant. Je critique, mais pas trop fort. Mais Active Directory, ouais, c'est... Pouah, c'était pas passionnant du tout, hein. Pas passionnant. Mais il en faut, hein. La version d'Azure est mieux. Ok. AD, c'est super. Ouais, après, je pense que c'est très puissant quand tu plonges dedans, mais moi, j'avais trouvé ça d'une chianteur. Moi, je gère une équipe d'info, aucun problème avec Microsoft, Active Directory pour 500 personnes. Non, mais ça m'étonne pas, je pense que c'est robuste. C'est méga robuste, mais qu'est-ce que c'est chiant. Ouais, c'est une usine à gaz, ouais. Mais il faut, hein. Au bout d'un moment, il faut une usine à gaz quand tu as des grosses boîtes. Hein. La version gratuite de Slack est largement suffisante pour la majorité. Ouais, tu perds l'historique. Ouais, mais tu vois, perdre l'historique, Alexis, dans une entreprise, c'est un problème, hein. Quand nous, on s'en est rendu compte là avec Nowtech, j'ai archivé des trucs et récemment, je cherchais des infos et elles sont dans les archives. En fait, avoir des sauvegardes, c'est important. Hein. Tac. Le feu Active Directory, venez, on se rebelle, les amis de réseau. Il y a des obligations réglementaires sur l'historique dans certains métiers audités aussi. Ouais, ouais, ouais. C'est puissant, mais pas passionnant. Ouais, après, c'est passionnant pour certains. Hein. Pourquoi ne pas passer par Teams, Discord ou autre si Slack, c'est payant pour l'historique? Bah, parce que j'imagine que Slack, Mwendigo, tu payes aussi pour une garantie de données, de vie privée. Il y a des obligations réglementaires... Ouais, Teams et Discord, tu vois, niveau data, c'est pourri, quoi. Hein. C'est cax, quoi. Tu mets tes données au sein de groupes américains. Donc, si tu fais pas du secret défense, ça va, quoi. Mais si tu es dans une boîte de santé, tu es dans une boîte ou même tu as envie d'un peu de confidentialité, t'es vite. C'est vite pourri, quoi. Les mecs qui bossent vraiment dans une vraie usine à gaz, comment ils disent quand ils font un truc compliqué? Ah, c'est une bonne question, ça. Les mecs, et les femmes d'ailleurs, qui bossent vraiment dans une vraie usine à gaz, comment ils disent quand ils font un truc compliqué? C'est une usine à gaz. Hein? Ou alors, non, plutôt quand t'es patron ou patronne et que tu. C'est qu'on te dit, c'est quoi ton métier? Non, c'est nul. J'allais dire, t'es patron d'usine à gaz, mais c'est naze. Non, non, ça marche pas. Ouais, non, c'est vrai. Ils disent qu'ils bossent dans l'administration. Ah, pas con, ouais. Pour les intégrations avec les apps externes, Slack, c'est le feu. Ouais, mais Discord aussi, hein. Discord. Il n'y a plus d'usine à gaz. J'ai 1 milliard de vannes nulles et bof qui me viennent en tête, mais je ne vais pas les faire pour votre plus grand plaisir, bien sûr. Il n'y a pas de solution française sur Framasoft. Framasoft, il ne faut pas oublier, hein, Framasoft, ce n'est pas une entreprise. Framasoft, c'est une fondation, enfin, c'est une association. Je crois qu'ils sont encore loi 1900, hein, si je ne dis pas de bêtises. Et eux, ils ne font pas des solutions professionnelles. Hein. Eux, ils défendent le logiciel libre, ce qui n'est pas du tout pareil. Lâche-toi sur les vannes pourries. J'en connais une usine à gaz, elle est assise sur mon canapé en ce moment. Ah, mais c'est Mimo, ça, c'est ton chat. Aïe, 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 aïe. J'espère que tu parles de ton chat et pas de ta chérie, Flonflon. Hein. Sinon, ça va chier. Hein. Sinon, là, ça part en drama Twitter. Hein. Tu le sais bien, Flonflon. Hein. Oui, Slack, c'est aussi américain. Ah, ben, je savais pas. Ouais, non, mais c'est une bonne remarque. À voir si la société a vendu de la garantie vie privée, je sais pas. C'est une très bonne question. On va avancer, les 8h23. C'est très intéressant de parler de tout ça avec vous. Et bien sûr, nous allons enchaîner après cette blague magnifique de Flonflon. C'était un article de ZDNet et nous allons passer à un article de Frandroid. Les confrères de Frandroid, on leur fait des bisous. J'en ai croisé beaucoup récemment, c'était chouette. Starlink est de nouveau autorisé en France. Les milliers d'utilisateurs peuvent souffler. Le 5 avril dernier, alors je suis pas un expert en Internet par satellite, Starlink, tout ça, tout ça. Donc je vous laisserai dans le chat préciser des choses si je dis des grosses bêtises. Ou si Frandroid dit des grosses bêtises. Et éventuellement, s'il y en a qui ont Starlink, on serait très curieux d'avoir votre retour dans le chat, ce serait chouette. Le 5 avril dernier, le Conseil d'État a bloqué Starlink en jugeant que la décision de l'ARCEP était susceptible d'avoir une incidence importante sur le marché de la fourniture d'accès Internet et haut débit et d'affecter les intérêts des utilisateurs. Les autorisations d'exploitation des bandes de fréquences de Starlink ont ainsi été annulées. L'autorité de régulation des communications électroniques a réagi à la décision et précisé que dans le cas de l'autorisation d'utilisation de fréquences délivrée à Starlink en 2021, elle avait considéré qu'elle n'allait avoir aucune incidence importante sur le marché ni affecter les intérêts des utilisateurs finaux. Globalement, Starlink, ça va. Voilà, vous pouvez continuer d'opérer. En effet, la bande de fréquence considérée permet une cohabitation de multiples acteurs satellitaires, n'entraînant donc pas un phénomène de rareté des fréquences. Pour se conformer à la décision du Conseil d'État, l'ARCEP avait alors annoncé la mise en place d'une consultation publique pour recueillir les réactions des acteurs sur l'attribution des fréquences de la société Starlink. Après quelques semaines d'attente, l'ARCEP publie les contributions à cette consultation publique et attribue à la société Starlink une nouvelle autorisation d'utilisation de fréquences. Ces contributions à cette consultation publique ont notamment fait ressortir l'intérêt du service Starlink pour développer la connectivité des zones blanches, ça m'étonne pas, ouais, mobiles ou mal desservies par les réseaux fibrés. Voilà, donc globalement, Starlink, ça a été bloqué. Petit check-up, on vérifie que tout va bien et hop, c'est reparti. Est-ce qu'il y en a dans le chat qui utilise Starlink? Je suis très curieux. Je parlais clairement de mes proutes, pardon, je suis fatigué. Il n'y a pas de problème, Flonflon. Aucun problème. C'est intriguant, physiquement, ils ont pu vraiment couper le service, pas juridiquement. Bah, je pense que si... En fait, c'est pas eux, enfin, c'est... Comment dire, Starlink peut forcer le truc. Globalement, rien n'empêche à Starlink de quand même continuer à émettre ses fréquences. Mais je pense que l'amende doit être... bien trop élevé pour que ça les incite à faire ça. Voilà. Mais ouais, Starlink, est-ce qu'il y en a qui font ça? Ça devient une habitude en France de bloquer puis d'autoriser toute nouveauté comme la 5G, Starlink. Ouf, ouais, je suis pas forcément d'accord avec toi, Sowen. Hein. Il y a aussi... moi, je suis content qu'on soit aussi dans un pays qui se pose des questions et qui valide pas tout forcément sans vérifier les choses, quoi.
Hop, waouh, je suis dans le flou, let's go.
Donc, non, non, moi, ça me choque pas. Je trouve ça plutôt intéressant. Alors, ça ralentit un peu les choses, c'est sûr, mais pourquoi pas? Faut trouver un équilibre. Foncer sur des bandes de fréquences. Enfin, faut quand même pas oublier que si tu balances de la fréquence et que d'autres acteurs peuvent pas arriver sur le marché, il y a quand même un problème de concurrence aussi. 99 euros par mois, ouais, c'est cher. Disons que c'est européen, comment bloquer? De quoi? Je ne connais pas d'utilisateur, mais l'autre jour, j'ai vu les satellites tous alignés dans le ciel, c'était flippant. Ouais, on peut les voir, les satellites Starlink. Ça pose des questions, hein, de pollution lumineuse, de à quel point on accepte que le ciel nocturne est autre chose que des étoiles. Il y a des vrais débats là-dessus, hein. Il y avait des débats aussi sur la publicité dans le ciel. Ça, c'est un truc qui, moi, me fait un peu froid dans le dos, mais est-ce qu'on peut accepter qu'il y ait des pubs dans le ciel, par exemple? Moi, de mon point de vue, absolument pas. Mais il y a des sociétés qui poussent pour que les choses évoluent dans ce sens. Et donc, il y a des vraies questions. Et le fait, par exemple, d'avoir déjà des satellites et de la lumière qui ne soient pas des étoiles, c'est déjà des premières questions intéressantes, je trouve. Oui, pour l'observation spatiale, ça devient relou, bien sûr. C'est mieux d'arrêter de voir si c'est OK, le gaz de schiste a posé souci aux US après avoir été autorisé. Ouais. Salut, la Chine va détruire les satellites de Musk, il veut forcer le passage aérien chinois. Bon, attention, alors bienvenue à toi Hollywood, mais attention avec les affirmations un peu à l'emporte-pièce comme ça. La Chine va détruire les satellites de Musk. Je pense qu'il y a très peu de probabilité que là, dans un futur proche, la Chine détruise des satellites. Hein. Voilà, c'est. Faut pas oublier qu'il y a beaucoup de commerce avec la Chine. La Chine n'a pas intérêt à créer une troisième guerre mondiale et aucun pays a intérêt à faire ça. Alors je sais que certains vont me dire oui, mais la Russie et l'Ukraine, c'est pas une guerre mondiale. Voilà. Je sais que des gens ont eu peur de ça, mais ça n'a rien à voir avec une guerre mondiale. Voilà. Donc non, non, la Chine n'a absolument pas intérêt, et sans être un expert en géopolitique, la Chine n'a aucun intérêt à péter des satellites qui restent sous le quand même américain. Vu que l'entreprise est américaine. Attention, hein, avec des affirmations comme ça. C'est comme ça que des rumeurs se créent, c'est comme ça que la psychose se crée. Attention, attention. Hein. La Chine n'a pas intérêt à être sur le réseau Musk qui sont leaders sur le quantique. Mais la Chine développera ses propres satellites, Hollywood. Lunettes solaires Adblock bientôt. Non, Jérôme. Lunettes solaires uBlock Origin. Attention, c'est très important. Des lunettes open source. 200 millions de fibres déployées par Orange pour même pas 50% des gens en France. La France ne pèse même pas 1% de la population. C'est pas parfait, mais ça a du sens de faire du satellitaire. J'ai pas compris ton message, Sowen. Faut pas oublier que les satellites sont petits et vont très vite. Oui, non, bah alors militairement, je pense qu'il y a. C'est pas. Enfin, militairement, péter des satellites me paraît pas infaisable. Mais par contre, est-ce qu'il y a une raison valable de le faire en sachant que tu... Enfin, ouais, non, 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 clairement. Les Chinois savent faire des satellites, ils en ont déjà, bien sûr. Non, non, mais la Chine n'a aucun intérêt à péter du satellite américain. Ce serait une déclaration de guerre, ce serait terrible. Et j'espère que ça n'arrivera pas, mais je ne pense pas. En même temps, si tu ne déploies plus de satellites de communication, plus de GPS, plus de com international, faut savoir ce qu'on veut. Ouais. C'est pour ça que d'une certaine façon, même si niveau écologie c'est pas top, le libre-échange a des vertus de paix. C'est parce qu'on commerce avec beaucoup de pays que les guerres sont évitées aussi. Et alors certains diront oui, mais la Russie a attaqué l'Ukraine, mais au final on fait, il y a du commerce avec la Russie, beaucoup beaucoup de gaz et d'énergie avec la Russie, mais c'est pas au même niveau que la Chine qui est l'usine du monde, par exemple, aujourd'hui. Et par ce fait-là, il y a peu de chances, effectivement, qu'on parte sur une grosse guerre. Attendez, je regarde un truc. Ah oui, non, ok, excusez-moi. Je croyais qu'on m'avait envoyé un message. Tout va. Enfin, moi, on m'a envoyé un message, mais c'est pas par rapport au chat. Surtout un satellite privé, niveau provocation, il y a mieux comme menace. Non, mais oui, clairement. Entretirer des centaines de millions de kilomètres de fibres avec les tranchées que ça demande, écologiquement, les satellites peuvent avoir du sens. Non, ouais, c'est pas faux. C'est plutôt un. Il faut étudier le truc, mais c'est pas bête comme commentaire, je trouve. Oui, t'as raison, je trouve. Arrêtez de parler complot. Oui, non, mais justement, je détricote. Les altitudes GPS et Starlink, c'est pas les mêmes choses. Non, mais il y a plusieurs types de satellites. Je veux les dernières technologies, on veut que ça aille toujours plus vite, on veut aussi que le ciel s'éclaircit, à un moment, il va falloir choisir. Ouais, tu peux quand même avancer technologiquement sans péter le ciel nocturne, je pense. Je sais pas. Je suis pas un expert. Je pense que des gens d'ailleurs comme Hugo Lisoire, que Flonflon connaît un petit peu, enfin même bien, seraient des gens hyper intéressants. Faudrait qu'on lui propose un jour, Hugo Lisoire, de passer dans le mug. Quand on a souvent des sujets comme ça, un peu espace, technologie, je pense qu'il sera 1000 fois plus compétent que l'équipe du mug, c'est sûr. Merci Milvar Riaklov pour ton deuxième mois d'abonnement. Merci beaucoup pour ton soutien. Pixel 6 à 500 € chez Orange, tu conseilles? Si t'as besoin d'un nouveau téléphone, oui, le Pixel 6, il est bien. Moi, j'ai juste toujours un petit doute sur le matos Google. Hein. J'ai toujours un peu de mal, mais je pense que c'est bien. Pourquoi ils sont pas tout noirs, les satellites? Je ne sais pas, il doit y avoir une raison. Non, mais ils doivent réfléchir la lumière du soleil, j'imagine, je sais pas. Ouais, par contre, Sowen, le problème des déchets dans l'espace, ça c'est un vrai souci, hein, bien sûr. Ouais, merci Davidino pour le soutien Team Naotech, c'est très gentil, merci beaucoup, c'est très important. Hein, vous le savez, sur Naotech, on essaye d'être, voilà, de promouvoir aussi une équipe diverse. C'est pas toujours évident, mais voilà, on est content d'avoir trois personnes qui font le mug, des avis différents sur les choses, et d'une certaine façon, alors même si vous avez vos préférences des présentateurs, présentatrices, il n'y a aucun problème là-dessus, mais d'une certaine façon, voilà, on est content de proposer des choses différentes, des avis différents sur les sujets. Vous avez très bien compris que Jérôme est de droite et moi je suis de gauche. Non, je vanne, en plus, c'est pas vrai du tout. On a des avis beaucoup plus nuancés que ça. Mais voilà, on aime bien juste caricaturer un peu ça. On sait que ça vous fait un peu rire dans le chat. Et nous, ça nous fait rire aussi. En vrai, Jérôme et moi, souvent à l'atelier, on discute de sujets. Et très souvent, ça se termine. Non, mais de toute façon, t'es de gauche, comme ça. Et hop, voilà. Et on rigole. Et c'est très bien. Non, merci à tous, hein, c'est chouette. Les satellites ne reflètent pas la lumière du soleil. C'est les panneaux solaires qui le font. Ok, c'est pour ça que c'est dur à régler comme souci. Ok, il y a forcément des panneaux solaires sur les satellites, j'imagine, pour l'énergie. Ok. Naotech, j'adore votre impartiale partialité. On est partial. Partiaux, pardon. On est partiaux. On est. C'est bizarre, j'ai jamais utilisé le mot partial au pluriel, c'est bizarre. On a des avis hein, sur certains trucs et on n'est pas toujours d'accord entre nous. Hein. Voilà, par exemple, Jérôme trouve que Star Wars et les nouvelles séries sont vachement bien. Ouais. C'est pas mal, quoi, mais pareil, Jérôme trouve que la prélogie est pas dingue, elle est pas incroyable, mais elle est mieux que la trilogie originale. Explosion. Là, j'ai pété Jérôme, là, c'est fini. C'est fini pour la journée, là, c'est terrible. Terrible, terrible, terrible. Est-ce que vous avez pensé à inviter Karina en guest? Karina, c'est pas sa came. Il faut pas forcer les gens. Karina, elle est pas fan de passer derrière la caméra, ou en tout cas, elle a jamais vraiment exprimé l'envie d'elle-même. Faut pas forcer les gens. Hein. Non, non, c'est pas sa came. Non, en vrai, je déconne. Obi-Wan, c'est chouette. J'avoue, j'aime bien Obi-Wan. Il y a des problèmes de rythme sur les courses-poursuites, mais c'est quand même cool. Le chat en feu. Aïe, aïe, aïe. Faudrait que je fasse un sondage de droite ou de gauche? Le truc horrible. Je quitte le live, c'est nimp. Oh là là, putain, mais c'est si facile de te troller sur Star Wars, Jérôme. C'est là où on est des bons geekos quand même. Hein, parce que là, en ce moment, on se fait des repas débat Star Wars. Putain, mais c'est vraiment le cliché, quoi. Il faudrait le générique de Big Bang Theory, on est en plein dedans, quoi. C'est vraiment pote 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 Star Wars, let's go. L'intrigue Obi-Wan n'est pas un peu facile? Non, moi j'aime bien quand même. J'avoue, j'aime bien Obi-Wan. Par contre, putain, Boba Fett, quel enfer. Oh là 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 là, y a rien qui va. C'était terrible. Star Trek ou Star? J'ai pas vu Star Trek. Je suis pas du tout dans cet univers, mais je pense que c'est cool. Unpopular opinion, Star Wars épisode 8 a de bonnes idées cinématographiques. On va pas en parler maintenant, on est là pour parler tech, mais non, c'est pas possible. Obi-Wan est-il Nupes? Mais ça veut plus rien dire, Jérôme. Ça veut plus rien dire. Allez, on avance. Est-ce qu'on peut changer de présentateur qui dit des inepties sur Star Wars? C'est trop facile, hein. Balancer des petits trolls sur Star Wars, c'est si facile. C'est vraiment... Je balance des petites phrases, comme ça là, hop, petite miette de troll, et là, vous êtes Vous partez direct. C'est trop, 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 trop rigolo. Allez, on avance, mesdames et messieurs, et nous allons parler de l'iPad. Et oui, et oui, et oui, et oui. L'iPad et surtout iPadOS 16. C'est un article de XDA. Regardez ce que je reçois. Regardez, regardez. Ah, mais ça, attendez. Regardez ce que je reçois. Un petit message. Ah, vous le voyez pas, tant pis. Un petit message de Flonflon qui me dit « T'es une merde ». Aïe, 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 aïe. Allez, on avance, on avance, on avance. iPadOS 16. Donc, vous le savez, il y a ce gros débat sur les iPads et iPadOS. Oui, c'est pas comme un Mac, c'est pas un vrai PC, on peut pas faire les mêmes choses, etc., etc. Jérôme et moi, on a un peu le même avis. Moi, je trouve que l'état d'iPadOS, alors peut-être il y a des améliorations à faire encore, mais globalement, je trouve qu'on peut carrément bosser sur un iPad aujourd'hui. Ça, pas pour tous les métiers. Si vous êtes dev, c'est cax. Mais il y a plein, plein de métiers créatifs et tout où la simplicité d'iOS apporte un vrai intérêt, une vraie plus-value, un vrai focus sur ce que vous êtes en train de faire. Moi j'aime bien iPadOS comme il est. Voilà. Moi, je dis des trucs comme ça. Là, let's go, iPadOS, c'est bien. Non, mais c'est vrai. Je trouve qu'iPadOS est bien comme il est aujourd'hui. Il y a des petites évolutions. Enfin, voilà, il y a toujours moyen d'améliorer les choses. Mais j'aime bien iPadOS. Depuis qu'ils ont fait leur multitasking avec facilement, on peut mettre facilement moitié-moitié d'écran, les applis, hein, vous savez, une moitié d'un côté, une moitié de l'autre. Je trouve que globalement, ouais, iPadOS, c'est pas mal. Vraiment. Voilà. Et il n'empêche que beaucoup de gens se plaignent encore d'iPadOS. Je peux comprendre, hein, chacun a ses besoins différents. Et donc, il va y avoir une mise à jour. Ça, vous le savez, on va couvrir, d'ailleurs, grosse annonce, hein, mais ça, vous le savez déjà. On va couvrir la WWDC, Jérôme et moi, nous serons tous les deux. Nous allons couvrir la WWDC, ça va être une soirée très très cool, on va prendre l'antenne assez tôt. Grosse news, cette fois-ci, vous allez pouvoir passer la soirée entière avec Nowtech. C'est-à-dire que de 18h30 à 22h, 22h30, on va tout faire avec vous de couvrir la keynote, en sachant qu'on pourra probablement pas la montrer sur Twitch en live. Donc on verra, soit on essaiera de mettre le fond audio, mais je suis pas sûr que ça passe. On trouvera un moyen, mais en tout cas, on réagira à la keynote et on fera surtout le débrief. Voilà, voilà. Je veux pas de fenêtre flottante sur mon iPad, pas content. Ouais, mais je suis d'accord avec toi, Jérôme. Je suis d'accord. Donc, qu'est-ce qui va se passer sur... Attendez, je remets l'article. iPadOS 16 could introduce resizable app windows on the iPad. Ce qui, traduit en français, veut dire que iPadOS 16 pourrait introduire, présenter, parce qu'introduire en français, ça se dit, mais c'est mal dit, pourrait présenter des fenêtres redimensionnables sur l'iPad. Curieux de voir ce que ça va donner. Aujourd'hui, effectivement, on a du multitâche qui est uniquement genre... Alors, je crois que c'est possible, ça, Jérôme, un tiers, un tiers, un tiers. Peut-être sur le grand iPad, je ne sais plus si c'est possible sur le petit. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous pouvez faire moitié-moitié et vous pouvez faire aussi une fenêtre qui est par-dessus vos fenêtres actuelles. Ça, c'est faisable aussi. Et vous pouvez avoir du picture-in-picture. Voilà en gros les possibilités de multitasking aujourd'hui. Moi par exemple, un truc que j'aimerais voir sur iPadOS, c'est la gestion du son. J'aimerais faire en sorte que le son puisse aller à différentes sources audio. En gros, quand vous branchez un iPad sur par exemple un écran, aujourd'hui le son, vous pouvez pas le sortir. En gros, il va forcément passer dans l'écran. Enfin, il y avait une merde. Je sais que j'avais essayé de faire ça et il y avait une merde et je pouvais pas récupérer le son dans un autre endroit. Enfin, c'était un peu le bordel. Donc ça, j'aimerais bien une gestion plus efficace du son sur iPadOS. Mais par contre, du multitasking avec des fenêtres redimensionnables, ça, je suis moins convaincu. Donc, aujourd'hui, effectivement, vous pouvez faire des applications côté par côté, annoncer ou third over, une slide over, ouais, c'est ça. Mais vous pouvez pas déplacer librement comme sur macOS. Voilà. Ouais, c'est deux moitiés plus une app en barre verticale. D'accord, merci, Jérôme. Ouais, non, c'est pas trois, c'est pas un tiers, tiers, tiers. Un tiers, un tiers, un tiers, je crois que c'est sur Samsung Dex. C'est pour ça que j'étais perturbé. Merci Bicris pour ton Prime, 10 mois d'abonnement. Merci beaucoup, c'est chouette, merci. Donc vous en pensez quoi? C'est pas un article très long, hein. C'est des rumeurs, mais on verra ça de toute façon à la WWDC. Est-ce que ça vous chaufferait, vous, sur l'iPad? Sur le son, il faudrait pouvoir les mixer, ouais. J'ai commencé à dev sur Vaille, alors bon, un IDE sur iPad, ça marche pour moi. Oui, c'est vrai que si tu dev sur Vaille, tu peux tout faire. Il manque un vrai pointeur de souris. Ah ouais? Pour le coup, Bruyot de Fenouille, moi j'ai paramétré mon iPad pour avoir un curseur. Tu sais, c'est dans l'accessibilité, tu peux avoir un curseur avec un petit point. Donc en fait, moi ça marche très bien, je trouve. Ça remplace totalement le curseur de la souris. Donc ouais, je suis très très curieux de savoir ce que ça va donner. Un peu dubitatif de cette mise à jour iPadOS. Ah si, ça, si c'est vraiment définitif. Après, on peut faire confiance à Apple en général sur l'ergonomie pour que ça soit bien intégré. Donc c'est pas impossible qu'on ait des fenêtres dimensionnables, mais qu'elles aient quand même des formes bloquées. Je sais pas. C'est cool, mais je trouve ça pas si précis le gros point. Ah ouais, bah avec un trackpad, ça passe, je trouve. Moi, je travaille en session à distance, je ne sais pas si c'est adapté. Ça et un éventuel support des machines virtuelles en local, ça serait parfait. Ouais. Moi, j'en peux plus de l'interface iPad en mode clavier, ça part dans tous les sens quand je passe en mode portrait en paysage. Ouais, ok, je suis d'accord. Dites-moi aussi, dites-nous ce que vous voudriez voir apparaître sur iPadOS 16, hein. Je suis assez curieux. Parce que tout le monde sait que la gestion des fenêtres sur macOS est top. Moi, je trouve que ça va sur macOS. En fait, macOS a une philo un peu différente, par exemple, de Windows. macOS a un peu un côté bureau d'artiste fourre-tout. macOS, tu ouvres plein de fenêtres et en fait, faut vraiment prendre l'habitude de faire le geste sur le trackpad des trois doigts vers le haut. Je crois que ça s'appelle Control Center, me semble. Ou je sais plus. Ça, je sais. App Control, je crois. App Control, peut-être. Quand vous faites ce geste-là et quand vous manipulez macOS avec ce geste, là, macOS devient très agréable parce qu'en fait, vous retrouvez très vite la fenêtre que vous voulez ouvrir. Moi, je fais comme ça tout le temps et en fait, je m'y retrouve bien. J'aimerais bien pouvoir faire de la prise en main à distance sur les iPads pour aider ma grand-mère. Ouais, je comprends. Guillaume, penses-tu qu'Apple va utiliser l'USB-C à partir des iPhone 14? Alors, moi, je pense rien. Par contre, les rumeurs disent que l'iPhone 14 aura encore du Lightning, mais que l'iPhone 15 pourra avoir de l'USB-C. Des comptes utilisateurs, vous avez raison. Ça, par contre, vous avez raison, effectivement, sur l'iPad, il faut des comptes utilisateurs, c'est plus possible. Surtout si vous êtes parent. Ça, les parents, ils le savent bien. Hein, pour gérer ses enfants, si un moment ils utilisent la tablette, il faut du compte multi. Enfin, il faut des multi-comptes, quoi. Je veux le retour du clavier dissocié, ok. Les logiciels de musique présents sur ordinateur, genre Ableton Live et les plugins. Ouais, ok. Ça, c'est plus spécifique pour le coup. Moi, tu vois, typiquement, ça ne me choquerait pas que les logiciels de prod musicale ne soient pas sur iPad. L'iPad est vraiment d'abord une tablette avant d'être un mini-ordinateur. Donc moi, ça ne me choquerait pas. Niveau gestion des enfants, le mode famille est assez puissant. D'accord, je ne connaissais pas. Sur iPad, on peut connecter plusieurs écrans et travailler sur deux écrans. Tu peux brancher un écran. Et c'est en plus, c'est du mirroring. Ça, il faudrait une vraie évolution aussi. Non, non, ta prédiction l'année dernière, c'était que le prochain iPhone aurait zéro prise. Gestion des écrans externes, ouais, ça serait bien qu'il y ait une meilleure gestion des écrans, ouais. Mais en fait, typiquement, s'il y a vraiment du multi-fenêtrage, là, comme ils veulent faire, l'écran externe ne sera plus un problème, tu pourras faire glisser ta fenêtre sur un autre écran. C'est peut-être pour cette raison qu'ils font ça, d'ailleurs. Quand tu as toute ta musique sur OneDrive, c'est vraiment pas utilisable, pas de synchro avec l'iPhone. Ok. Pas de compte utilisateur, un iPad par personne. Ouais, mais non, ça marche pas, ça. Je pense qu'Apple a plus intérêt à faire du multi-compte. Le souci que j'ai, c'est que j'utilise un clavier physique allemand. Dès que je reconnecte, le clavier iPad reste en français. Ah merde, ouais, c'est chiant ça. Il n'y a pas de temps d'écran sur iPad comme sur iPhone. Si, 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 tu peux faire le temps d'écran. Niveau écran aussi, tu peux passer d'un écran Mac à ton Mac portable à ton iPad, c'est devenu super puissant depuis la 12.4. Ouais. Webstorm sur iPad. Le dev, ça peut le faire par contre, je trouve. Le dev sur iPad, ça pourrait être cool. Faire du dev web par exemple, mais même pas que, hein. Globalement, maintenant, enfin, l'architecture ARM permet de tourner des scripts de à peu près n'importe quel langage de programmation, hein. Je dis ça, mais est-ce que le Java tourne sur ARM? Bah oui, je suis con, les applis Android, elles sont en Java. Oui, non, donc il y a vraiment moyen de lancer du Java, du Python, du web. Est-ce que le C, le C++ tourne sur ARM? Tiens, c'est une curiosité, ça. Je réfléchis. A priori, oui, j'imagine juste que s'il y a des appels à des fonctions spécifiques de l'OS, Il n'y a que dans ce cas-là où il va y avoir des particularités. L'allocation mémoire doit pas être la même, j'imagine. Ouais, c'est C++ sur ARM. Ouais, ok. Sur tous les processeurs. Ok, ouais, ça fait très longtemps que j'ai pas fait du C, du C++. J'en ai fait en cours et j'en ai pas fait après. Tout le code Apple est en C. Oui, mais le code interne, c'est logique qu'il soit en C, mais. Ouais, ça tourne. Ouais, ok. Dommage qu'en Universal Control, le drag and drop vers le Mac fonctionne très bien, mais vers l'iPad, ça fonctionne jamais. Ok. Ok. Beaucoup de langages sont dev en C++. Oui, c'est vrai que la base de beaucoup de trucs, c'est du C++, hein, c'est sûr. Ok. Bah, donc ça veut dire qu'on pourrait coder du C++. Mais on est d'accord, les gens, que pour tout ce qui va être appel mémoire et choses comme ça sur le C, le C++, là je parle aux devs, hein, ça sera pas les mêmes fonctions, hein. Il y aura des grosses nuances quand même. Parce que tu gères pas la mémoire de la même façon sur du Intel et sur du ARM, si je dis pas de bêtises. C'est pas la même archi. Je sais pas, là c'est de la curiosité, hein. De toute façon, tu passes tout sur GitHub et tu remote compile. Ouais, là, tu vois, c'est des usages qui ont évolué. Moi, j'avoue que quand j'ai fait du code, si après t'avais une CI/CD, enfin t'avais une intégration continue et déploiement continu, donc en fait, d'une certaine façon, c'était déjà du remote compile. Oui, différent, c'est pas la même. Ouais, ok. Ok. Bon, merci pour les infos. C'est intéressant. Désolé pour ceux qui sont pas très dev. Promis, on va avancer au prochain article. Et justement, dans le prochain article, mesdames et messieurs, nous allons parler de ce fameux débat. Fameux débat sur la. Je sais pas si vous avez passé la liste des mots traduits vers le français et des mots liés à Internet et aux nouveaux usages récents d'Internet et de pas mal de choses, notamment aussi le jeu vidéo. Voilà. C'est une affaire résolument franco-française et somme toute, c'est un article de Numérama et somme toute assez anecdotique, mais dont la portée a depuis quelques jours largement dépassé les frontières nationales. La traduction des termes associés à l'univers du jeu vidéo, matchmaking, season pass, pay to win, free to play, game as a service, e-sport, retro gaming ou downloadable content, et bien sûr streamer. Là, je prononce évidemment à l'anglaise, mais on peut le dire avec un bon accent français aussi. Si vous n'avez rien suivi, sachez qu'une nouvelle vague de traduction est proposée pour ces mots. On parle d'appariement de joueurs, matchmaking, appariement de joueurs, passe saisonnier, payé pour gagner, jeu vidéo en accès gratuit, jeu vidéo de compétition, rétro jeu vidéo, contenu téléchargeable additionnel, et quant à streamer, il faut plutôt dire joueur, joueur animateur ou joueur en direct. Vous avez le droit de dire meuporg encore aujourd'hui. Est-ce qu'on a parlé du moteur de recherche d'Apple? On en a parlé hier, KL Paexcel. Bienvenue à toi sur l'émission. N'hésite pas à regarder le replay de l'émission d'hier. Jérôme a dédié un article dessus. Donc, alors, la presse anglophone, quand elle a eu vent de cette histoire, s'est montrée très intéressée par le sujet. Elle est revenue abondamment dessus, non sans en dire quelques mots, parfois avec quelques taquineries. Pourtant, en lisant des titres de telle ou telle publication, on pourrait croire que la France interdit purement et simplement à sa population de parler de matchmaking ou de streamer. French institution bans English words like esport and streaming, titre ainsi Kotaku. French government bans English tech jargon for gamers, estime The Local, et France bans English gaming tech jargon in push to preserve language purity, lance même The Guardian. Donc en gros, pour traduire rapidement, le gouvernement français bannit les mots tech des gamers, des joueurs. Même moi je fais un anglicisme. Aïe aïe aïe. Bref, bannissement partout, anglicisme nulle part. Ok. La réalité est bien sûr plus nuancée. Ce n'est pas le langage courant qui est directement concerné, c'est l'administration qui doit s'y conformer pour ses publications en s'abstenant d'utiliser des mots étrangers. Ce n'est pas le langage courant, hein, voilà, l'article se répète un peu. Ce sont les services de l'État. Ils sont d'usage obligatoire dans les administrations et les établissements de l'État. Alors, ces traductions sont conduites par la commission d'enrichissement de la langue française, qui les publie de temps à autre au journal officiel, après un feu vert de l'Académie française. Il y a des très bonnes vidéos sur Internet, notamment Linguisticae, qui parle un peu de l'Académie française, qui fait une petite critique assez intéressante dessus. Dans la Constitution française, l'article 2 déclare que la langue de la République est le français. De plus, des textes législatifs, comme la fameuse loi Toubon, contraignant les services publics à privilégier des termes en français. Contraignent, pardon. Le dispositif d'enrichissement de la langue française a pour mission première de créer des termes et expressions nouveaux afin de combler les lacunes de notre vocabulaire et de désigner en français les concepts et réalités qui apparaissent sous des appellations étrangères. Globalement, en fait, ça signifie qu'il faut trouver des appellations françaises pour les termes qu'on utilise, même si ce sont des nouveaux termes. Et je trouve ça normal, moi je comprends. Confirme à ce sujet le ministère de la Culture et dans sa rubrique sur la défense du français. DDoS, se dit par exemple attaque collective passe saturation de service, stablecoin ça se dit cyberjeton indexé, firewall se dit barrière de sécurité. Ah, c'est marrant, ils n'ont pas traduit par pare-feu. Ok. Et ainsi de suite. Bien sûr, cela occasionne parfois des réactions narquoises dans l'hexagone, même dans le chat, là, j'ai pas encore lu, mais c'est sûr, car les propositions ne sont pas toujours très heureuses ou bien tentent de faire leur trou face à des termes étrangers largement implantés. Streamer entre typiquement dans la catégorie des termes anglais déjà largement présents au quotidien. Je suis pas d'accord avec Numérama. Présent au quotidien dans notre milieu à nous numérique. Je dis streamer à ma mère, elle comprend pas. Et je dis streamer, je pense à plus de la moitié de la population, ils comprennent pas. Donc je suis pas d'accord avec streamer qui est présent au quotidien. Non. Je trouve pas que quelqu'un d'étranger, par exemple, qui vient en France, qui apprend le français, qui par exemple fait, qui se balade à Paris, qui, je sais pas, on va dire quelqu'un qui fait une auberge de jeunesse, qui rencontre des gens, des Français. Jamais il entendra streamer. C'est pas un terme très courant, je trouve, en fait. C'est très rare, c'est très spécifique à un milieu professionnel même, je dirais. Comme on a plein de termes très spécifiques au milieu dans le développement informatique, streamer, c'est très particulier, je trouve. Bref, mais si la traduction proposée par la commission n'est pas manquée, elle apparaît incomplète, elle occulte toutes les autres pratiques du streaming. Ça, par contre, je suis d'accord avec Numérama. Il y a un vrai souci sur le terme streamer. Parce qu'aujourd'hui, les traductions sont liées aux jeux vidéo. Voilà. Et nous, qu'est-ce qu'on fait actuellement là, hein? Bonjour à tous, on est des streamers, mais on fait pas du jeu vidéo. Mais si on devait dire notre métier en français, on serait joueur animateur, si on le traduisait en français. Ça marche pas. Ça marche pas du tout. Il est à noter que la commission a d'ailleurs réagi à notre précédent article en publiant dans les commentaires de Numérama un message dans lequel elle admet que la définition publiée n'a pas la prétention de recouvrir tous les sens de l'anglicisme streamer. Ah mais les frérots, si vous faites une traduction et que le sens n'est pas couvert en entier, ça marche pas. Alors là, je suis un peu désolé, mais ça, pour le coup, si tu traduis quelque chose, fais en sorte que la traduction, elle marche quoi. Elle indique au passage laisser la porte ouverte à une nouvelle traduction et une nouvelle définition si le besoin s'en fait sentir. L'article rappelle après en fin que en matière de langue, l'usage fait loi. Ça évidemment. Mais ouais, créateur de contenu, diffuseur de contenu. Je comprends pas pourquoi ils n'ont pas traduit streamer par diffuseur. Notre métier, c'est d'être diffuseur. Ça marche. Ça fait bizarre, mais ça marche. Non? C'est quoi votre meilleure traduction pour streamer? Hein, vous diriez quoi? Moi, je trouve diffuseur, c'est bien. Présentateur, ça marche pas. Présentateur, ça existe déjà et c'est ça. Pour moi, c'est autre chose. Non, diffuseur. En fait, diffuseur, je trouve, il y a l'idée de... Un stream, en anglais, c'est un flux. Alors, on peut pas dire fluxeur, ça marche pas. Mais diffuseur, il y a vraiment la notion de diffuser une émission, qu'on envoie quelque chose sur Internet. Déjà, t'appelles l'académie frérot, c'est pas bien engagé cette histoire. Non, mais ça va, c'est amical. Animateur en ligne. Animateur en ligne, c'est bien. Diffuser, c'est pas broadcast. Ouais, mais diffuseur, ça marche bien. Diffuseur web. Flexeur, let's go. La télé est un diffuseur pour les films. Ouais, mais là, on parle du métier de diffuseur, animateur en direct. Streamer. Non, streamer, ça, on peut pas traduire streamer par streamer. On peut pas le franciser. Animateur en ligne de gauche de préférence. C'est Twitch qui diffuse. Un vidéaste, diffuseur de contenu en direct. Vidéocaster. Non, cast, c'est déjà un anglicisme. Tu dis pas caster en français. Web vidéo diffuseur, c'est un peu long. Vidéaste, ça marche pas, on fait pas des vidéos là. On fait un. Enfin, si, au final, ça produit une vidéo, mais c'est un flux en direct. Créateur de vidéos en direct. Diffuseur, moi j'aime bien. Fluxeur. Après, fluxeur, pourquoi pas, mais ça fait effectivement un peu traduction québécoise chelou, mais why not, hein. Diffuseur, pour moi, c'est le truc qu'on met dans les toilettes pour cacher les odeurs. Non, ça, c'est pas un diffuseur. Ça, c'est un désodorisant. IMTK. fluxeur, annonceur, web diffuseur. Non, annonceur, ça marche pas. Pourquoi, Jérôme, t'as dit quoi? Ah oui, le truc de frérot, ouais. Pourquoi on pourra pas dire fluxeur, suffit de créer le mot. C'est, en plus, il est rigolo, le mot fluxeur. C'est quoi ton métier? Je suis fluxeur, en fait. Hein? Eh, ça fluxe un peu ou quoi, là? Ce serait drôle. Ce serait drôle de dire qu'on fluxe. Alors, ça fait quoi ce matin sur le mug? Ça fluxe un max? Ah, j'aime bien. J'aime bien fluxeur. Allez, vous savez quoi? Je vais lancer un sondage. Diffuseur ou fluxeur? C'est vous qui allez avoir le choix ce matin. Diffuseur ou fluxeur? Vous allez tous voter pour fluxeur. Je vous connais déjà. Mais je vous connais déjà. Attention. Gestionnaire de stream. Ça part sur le sondage. Ça part sur le petit sondage. Gérer les sondages. Alors, nouveau sondage. Diffuseur ou fluxeur. Ok. Alors, ça va être à vous. Ça va être incroyable. Diffuseur ou fluxeur. C'est vous qui choisissez ce matin dans le chat. C'est parti. À vos smartphones, à vos ordis, à vos clics. Qu'est-ce que ça choisit ce matin? Et j'envoie ça directement à l'Académie française. Là, c'est vous qui votez. Attention, hein, vous avez une grande responsabilité ce matin, mesdames et messieurs. C'est vous qui allez peut-être changer la langue française. Est-ce que diffuseur va être le terme validé pour streamer? Est-ce que fluxeur va être le terme validé pour streamer? Est-ce que vous allez avoir un impact sur toutes les prochaines générations d'humains sur cette planète et les prochains streamers, ou plutôt, que devrais-je dire, les prochains diffuseurs ou les prochains fluxeurs? C'est vous, le chat, ce matin, qui avez le choix, qui avez la possibilité de changer le monde. J'en fais des caisses. Guillaume, on va voir la preuve que tu as bien fait l'envoi. En vrai, je m'engage à envoyer un mail à l'Académie française ce matin en vous regardant droit dans les yeux. Je le fais. Et je tweete le mail juste après l'émission. J'espère qu'il y a un mail officiel de l'Académie française. Bonjour l'Académie française. Je suis Guillaume Slash de Nowtech. Ce matin dans le chat, nous avons eu un débat sur le terme streamer. Nous avons fait un sondage. Il en résulte que le chat a choisi le mot fluxeur. Je vous invite donc à prendre en considération la décision d'un chat de 1 million de personnes et de valider le terme fluxeur. Merci. Pourquoi j'ai dit quoi dans le chat? Ah, c'est déjà un anglicisme. Dans le salon de discussion. Je fais ça dans le chat. Enfin, je veux dire le salon de discussion. Ouais, fluxeur c'est logique mais c'est hyper moche. C'est vous qui choisissez. De toute façon ça a l'air de partir sur fluxeur. Hein. Il y a 64 votes pour diffuseur, 85 pour fluxeur. Je suis en train de me prendre un message, qu'est-ce que c'est? Oh, il y a le contact de l'Académie française, Samuel, il a filé le contact. Ok, en fin de live on va envoyer le mail. N'oublie pas de signer Guillaume Baroblique. Vous préférez que je signe Guillaume Baroblique ou Guillaume Slash? Ça c'est vous. Ça serait trop marrant qu'il me réponde. Ça serait beaucoup trop rigolo. N'oublie pas le bisou. Non, bisou, ça fait irrespectueux. Non, je vais pas faire de bisou. Est-ce que quelqu'un peut me faire la capture d'écran du sondage? Comme ça, je l'ai. Ça m'arrange, parce que là, sur l'ordi, ça va être un peu chiant de le copier sur Discord. Est-ce que Samuel ou un modo peut faire la capture d'écran? Comme ça, j'envoie ça juste après. Merci les modos. Diffuseur, ça fait un peu parfum quand même. Diffuseur, vous trouvez... C'est vrai que ça peut faire un peu parfum. Mais moi, je préfère la traduction diffuseur, mais on va partir sur fluxeur. Hein. Avec la capture de la gourde ombre. Ah oui. Là, en fait, il y a marqué ombre. Ok, ça part en fin d'émission, on écrit le mail ensemble. C'est parti. Je préfère que tu signes Guillaume Baroblique que Guillaume de Note. Très bien. Écoute, Jérôme, je vois que ça n'assume pas. Dans les moments difficiles, il n'y a pas de soutien de son équipe. Bravo à tous. Bravo. Allez, on avance et on va... il est quelle heure? Il est 9h. Bon, il y avait un article intéressant. C'est un débat que je trouve cool. Mais est-ce qu'on le fait maintenant? Il est 9h. Si on envoie le mail, ça va prendre un peu de temps. Allez, on va le faire rapidement. Je trouve que l'article était intéressant. Un article avant de passer après à notre merveilleux sponsor et ensuite d'enchaîner avec un petit débat sur les mondes connectés. Un article intéressant d'une étudiante accusée de tricherie à un examen par une IA. C'est un article de Slate.fr. Et c'est un article, je pense, en fonction de sa vision de la vie. Vraiment, je pèse mes mots. Je pense que c'est un article qu'on peut interpréter de différentes façons. Enfin, de... Comment dire ? D'avoir un avis un peu tranché. Enfin, vous allez voir. C'est en Floride que l'affaire a eu lieu. Élève d'un cours de biologie à distance au Broward College, à distance, hein, notez bien, une ado de 17 ans a reçu un avertissement pour tricherie. La raison, la start-up HonorLock l'aurait surprise grâce à une IA, grâce à son IA, en train d'agir de manière suspecte lors d'un examen. Voilà. Le New York Times s'est penché sur son cas. Voilà. L'étudiante s'est vue attribuer la note de 0 à la suite de cet incident. La pandémie de Covid-19, je vous ai sauté des bouts d'articles qui étaient, j'essaye d'aller à l'essentiel. La pandémie de Covid-19 a été une période faste pour les entreprises proposant de la surveillance à distance. Ces dernières ont développé de multiples extensions de navigateurs. Donc c'est un gros business, hein, tout ça. À noter quand même que la surveillance d'examen avec ces solutions-là sont généralement des méthodes donc d'enregistrement ou de micro, des méthodes utilisées généralement par la police. Après, en disant ça, ça oriente l'article, hein, je le reconnais totalement. Mais voilà, l'article est tel qu'il est. HonorLock est l'une d'entre elles. Créée par un groupe de diplômés d'école de commerce, la start-up a permis de surveiller plus de 9 millions d'examens en 2021, demandant $5 par test et $10 par étudiant. Putain, le business rentable. Hein. Business bien rentable. L'adolescente n'est pas la première personne à se plaindre d'une fausse allégation de triche, parce que la personne effectivement dit qu'elle n'a pas triché, due à un logiciel de surveillance. Mais elle est l'une des rares à avoir reçu une preuve, une vidéo d'elle d'une durée de 50 secondes. Lors de l'examen qui a donc eu lieu en février, l'adolescente a respecté toutes les règles recommandées par HonorLock, ne pas utiliser son téléphone et être seule dans la pièce. Elle a pourtant reçu par la suite un mail de sa professeure lui indiquant qu'elle avait été repérée par le dispositif en train de tricher. On peut y lire « Vous avez été observée en train de regarder plusieurs fois en bas et sur les côtés avant de répondre aux questions ». Après un rendez-vous avec cette professeure que l'adolescente n'avait jamais rencontrée auparavant, où elle essayait d'expliquer qu'elle réfléchissait simplement en regardant ses mains, c'est là où on peut avoir un gros doute, effectivement, est-ce que regarder ses mains, elle avait écrit des trucs sur ses mains? Ou est-ce que elle, y a plein de gens, quand ils réfléchissent, ils se concentrent, ils baissent la tête? C'est compliqué. Le verdict est tombé, responsable de ne pas s'être conformé aux instructions. L'élève est responsable de ne pas s'être conformé aux instructions. Point. Cooper Quintin, ou Quentin, membre de l'ONG Electronic Frontier Foundation, qui est une super ONG, hein, pour le coup, ils défendent beaucoup les libertés sur Internet, se révolte. Qui fixe son examen pendant l'épreuve entière? C'est ridicule, ce n'est pas humain. Des comportements normaux sont sanctionnés par ce logiciel. C'est vrai que, de mon point de vue, on devrait laisser le bénéfice du doute à l'examiné, en tout cas enfin, à la participante à l'examen. Mais c'est ça se débat. Selon lui, le problème est que les institutions prennent les résultats des analyses de l'IA pour la parole de Dieu. La porte-parole de HonorLock, Tess Mitchell, a quant à elle déclaré « En aucun cas nous n'identifions définitivement les tricheurs, la décision finale appartient à l'école. C'est donc à la professeure que revient la décision d'avoir sanctionné l'adolescente pour ce comportement suspect. » C'est un débat et un article extrêmement intéressant sur la place de l'IA, sur aussi les conséquences de la pandémie, sur les examens. Et c'est un avis où... C'est un article, pardon, où j'ai un avis compliqué. Enfin, mitigé. Par contre, je penche quand même plus du côté de l'étudiante. C'est plus la personne qui n'est pas en situation de force, hein, dans ce débat-là et dans cette discussion-là. Et encore une fois, c'est possible qu'elle ait triché. Mais est-ce que on va tomber dans un monde où pendant un examen, une IA analyse tous nos faits et gestes et détermine par un algorithme si on a triché? Ça veut dire qu'une personne qui se concentre d'une façon particulière peut être considérée comme tricheuse alors qu'elle ne triche pas du tout. Et comment on fait dans ce cas-là? Moi, c'est là où je me demande si les solutions ne sont pas d'adapter les examens et la notation. En gros, le problème, c'est qu'on essaye de faire coïncider deux trucs qui sont peut-être pas forcément très très compatibles. C'est les examens à l'ancienne, où t'es une heure devant une feuille et tu fais ton truc. Et comment dire, et le télétravail, enfin pas le télétravail, mais la distance, voilà, être en distanciel. Et c'est là où ouais, je me dis, est-ce qu'en fait ce problème-là, on peut pas le corriger en notant différemment, en modifiant les choses, en faisant plus de projets et de noter des projets d'élèves ou de faire des groupes d'élèves et de noter des projets de groupe plutôt que de faire des examens à l'ancienne qui sont peut-être qui ont moins de sens avec la distance. Parce qu'effectivement, si on commence à tomber dans des trucs où les examens, on surveille par RIA des élèves, ça devient compliqué. Maintenant, en tant qu'élève, je comprends la tentation de tricher. Ça donne des possibilités de triche vachement plus simples. Voilà, c'est un débat compliqué. Encore faudrait-il qu'une IA soit parfaitement informée de toutes les subtilités du comportement humain, et surtout cela signifierait que tous les humains ont très exactement le même comportement dans une même situation. C'est discutable et à mon avis c'est faux. Je suis plutôt d'accord avec toi, Frandé. Je suis plutôt d'accord. Maintenant, je comprends l'idée d'avoir développé des logiciels comme ça. Je comprends que ça répond à une demande. Et je comprends qu'en tant qu'université, professeur, tu fasses appel à ces logiciels. Je le comprends. Et je leur jette pas la pierre. Je pense qu'ils ont dû s'adapter très vite. Maintenant, on s'adapte très vite, mais c'est pas toujours les bons choix. Donc ça pose des débats intéressants de société. Il faudrait peut-être que l'IA intervienne comme une aide à la prise de décision. C'est déjà le cas. Normalement, l'IA est une aide à la prise de décision. L'IA va détecter une suspicion de fraude et c'est les professeurs qui valident ou pas. Mais ça pose quand même des questions très, très, très intéressantes. Sauf qu'une IA peut se nourrir de milliards d'humains pour apprendre alors qu'une personne seule. Même si une IA se nourrit, une IA ne peut jamais anticiper l'avenir. C'est un peu le problème des IA. Et je vais te prendre un exemple, mais imaginons que tu aies un examen et que la veille de l'examen, tu apprends un truc très, très, très dur. Par exemple, une personne de ta famille décède subitement, une personne de ta famille tombe malade très gravement la veille d'un examen. Tu vas arriver à l'examen en mode zombie, mal dans ta peau, et tu vas sûrement pas avoir le même comportement que 99% des humains face à un examen, et l'IA l'aura peut-être pas appris, ou pas suffisamment appris. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais? L'IA, elle te détecte comme fraudeur, t'as zéro alors que t'as pas triché? Tu fais comment? En fait, voilà, et tout le débat, c'est est-ce qu'on doit aller jusqu'à mettre de l'IA et de l'analyse de comportement humain pour passer des examens? Débat très complexe. Je n'ai pas de réponse claire là-dessus. Parce que je serai professeur. Adapter tout le programme pour faire des examens différents, ça demande un taf, je pense, impossible à abattre en un temps limité. Donc je comprends le besoin d'avoir ces logiciels-là. Comportement suspect, c'est à un humain de contrôler ensuite. Ouais, mais même, regarder vers ses mains, et enfin, c'est compliqué de déterminer avec une vidéo si vraiment quelqu'un a triché. C'est compliqué, je ne sais pas. J'ai eu des examens à distance, on était sur Zoom avec le tel et l'examen sur l'ordi. Si le prof avait un doute, on devait faire le tour de la pièce avec le téléphone. Ok. Il faut doser, c'est terrible ce réflexe de traiter le résultat d'un algo comme parole d'évangile. C'est aussi le problème dans certains services sociaux qui requièrent de la subtilité humaine dans le traitement des infos. Ouais, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Après, encore une fois, attention, hein, peut-être que cette personne a triché. Je remets pas en cause. Mais en fait, c'est presque même pas le débat si cette personne a vraiment triché ou pas. Présumé coupable. Ouais, c'est un peu ça, Julien Pernet. C'est un peu ce qui m'inquiète, c'est que... en fait, d'une certaine façon, cette étudiante n'a pas eu un procès équitable. Elle a pris un zéro. Rappelez-vous, quand vous étiez en cours, prendre un zéro, c'est très violent. Prendre un zéro, si vous êtes attaché à vos études, prendre un zéro, c'est potentiellement vous gâcher une année. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a même des débats plus profonds sur la notation, sur... Pareil, c'est des débats que j'ai pas résolus dans ma tête, je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que d'un côté, je serais très pour qu'on enlève tout système de notes, parce que je pense qu'il est destructeur pour certaines personnes, mais de l'autre côté, il faut bien noter à un moment aussi. Et il faut bien avoir une preuve que tu as acquis des compétences, et voilà quoi. Compliqué. Compliqué, compliqué. Je pense que c'est des débats qu'on résoudra vraiment jamais. Si une copine est à côté de moi en examen, je regarde sa feuille et je lui donnais les réponses. Ouais, après pourquoi pas, hein. T'as raison, c'est le mot en soi, hein. On l'a tous fait, hein. Qui n'a pas grappillé une réponse sur la feuille d'un voisin? tout le monde. Hein, qui n'a pas marqué une fois dans sa vie un truc qu'il voulait absolument pas oublier sur sa main avec un stylo bic. Enfin, au bout d'un moment aussi, voilà quoi, ça c'est clarinette. Hein. Acquis, non acquis, en cours d'acquisition. Ouais, c'est compliqué. Et c'est pour ça que moi je suis très examen continu. Je trouve que le principe des examens est cax un max, même s'il est, il peut être nécessaire aussi, mais je trouve que le contrôle continu est la meilleure des notations. Tu contrôles... En fait, simple. Plus tu as de notes, plus une mauvaise note peut être absorbée. C'est ça le plus important. En fait, c'est pas grave si t'es noté très régulièrement. Si, par exemple, toutes les semaines, on t'attribue une note, moi, je trouve ça plutôt OK. Parce que si à un moment, t'as un zéro parce que t'as chié dans la colle, la semaine d'après, tu peux te rattraper en bossant mieux et paf, t'as un 14, puis paf, t'as un 16. Puis... Mais donc, ta mauvaise note, elle est absorbée. Le problème des examens en fin de semestre, c'est que tout repose sur ces examens, tu te chies, c'est fini. Fin du game. Et t'es enseignant, enfin, mais c'est intéressant. S'il y a des enseignants et des profs, n'hésitez pas à partager vos retours. Hein. Je n'ai jamais mis de notes éliminatoires. Pour moi, on est là pour aider l'étudiant à apprendre, lui donner des outils, pas pour lui faire perdre une année. Il aura de toute façon les compétences quand il commencera à travailler. C'est cool d'entendre ça, Tolkaft. Mais de toute façon, moi j'ai eu de la chance. La majorité des profs dans mes études étaient chouettes quand même. En général, quand il y a vraiment des notes très violentes, c'est plutôt des élèves qui sont problématiques. Enfin, j'ai déjà vu des élèves être agressifs avec des profs. C'est souvent ces élèves-là qui se prenaient des taquets, parce que je peux comprendre aussi, quoi. Au d'un moment, le respect, il est mutuel aussi. Hein. J'ai jamais triché, j'ai raté ma vie. T'as pas raté ta vie, t'es sur le Mugnautech. En master info, je trouve que les notations sont trop simples. Tout le monde peut le faire, ce qui n'est pas le but. Ah, ou en master, peut-être. Moi, en master, donc fac publique. Hein. Moi, j'ai fait une fac publique. Non, putain, moi, c'était dur, les notes, hein. Franchement, le master que j'ai fait, il était pas évident. Hein. Je l'ai eu ric-rac parce que je bossais pas assez, ça c'est clair et net. D'ailleurs, merci les profs, vous êtes gentils, parce que je taffais pas assez. En fait, j'étais pas quelqu'un qui bachotait assez, clairement. Par contre, techniquement, j'étais pas trop mauvais, mais je bachotais pas assez. Donc, dès qu'il y avait des choses à retenir, je le faisais pas assez. Et donc, j'ai redoublé. Hein. J'ai redoublé ma dernière année. Mais j'ai réussi à faire un truc qui était cool, c'est qu'en fait, j'avais pas tous les cours. J'avais pas validé toutes les matières. Donc, en fait, c'est là où j'ai commencé YouTube. Mais j'allais en cours pendant ma première année YouTube. J'ai continué d'aller en cours, mais très peu par semaine. J'avais genre 4 heures de cours par semaine pour rattraper le truc, quoi. Non, parce qu'il y avait des matières vraiment que j'avais pas assez bachotées. Dans le monde pro, la notation n'a pas de sens, mais l'acquisition, si. Ouais. J'ai eu des notes violentes alors que les profs m'aimaient bien. Mais quand un examen te stresse, c'est difficile de sortir quelque chose. Ouais, t'as le stress de l'examen, tout le monde n'est pas pareil. C'est des débats compliqués. En fait, il y a des gens qui sont très à l'aise avec les examens, qui seront hyper chill, qui réviseront tranquille, il n'y a pas de problème. Et il y a des personnes, les examens, c'est pas leur truc, quoi. Et comment tu concilies ça, c'est compliqué. À Epitech, si tu avais fait le projet, ça validait la compétence, donc OSEF des notes. Ouais, c'est peut-être un bon compromis. Hein. Pareil, en Master Info, c'était chaud, surtout le projet en compilateur. Ouais, moi, en Master Info, qu'est-ce qu'il y avait eu de difficile? Il y avait eu un truc difficile en Master, c'était la récursivité. J'ai toujours eu beaucoup de mal sur la récursivité. Et il y a un projet sur lequel j'ai galéré comme un rat mort, vraiment. Récursivité, j'ai eu beaucoup de mal. C'était un truc en C++, en plus le C++, c'est pas un langage que j'aime beaucoup. Et il y avait une autre matière qui était extrêmement compliquée, c'était l'urbanisation des systèmes d'info. Avec beaucoup de notions théoriques et beaucoup de notions de recherche, scientifique, hein, j'entends, parce qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent, beaucoup de chercheurs en fait, d'enseignants-chercheurs. Putain, là c'était dur, hein. Là, il y avait beaucoup de... Et puis, c'est des trucs d'urbanisation de SI que tu vois pas... C'était très théorique. Très dur. Très, 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 très dur. Ouais, puis l'urbanisation des SI, en fait, c'est... Si vous voulez... En gros, il y a l'administration d'un système d'information, avec Active Directory, machin. Et l'urbanisation des SI, si j'ai bien compris, c'est un cran au-dessus. C'est vraiment la théorie pure et dure de comment tu architectures... Comment tu penses une architecture informatique. Voilà. J'ai entendu récursivité, je vais partir. Ouais. C'est dur. Perso, j'étais major de promo en fac de géographie informatique. Je ne faisais rien en cours de dev, mais j'avais un gros syndrome de l'imposteur. Mais il y a des gens qui ont des énormes facilités. Merci au Cotex pour ton Prime. Merci beaucoup. Je suis en master d'architecture. C'est dur de se prendre un 9 sur 20 en projet d'archi alors qu'on est sûr de quelque chose, on est sur quelque chose de très subjectif. D'un jury à l'autre, tu peux passer de 9 à 13. Ouais, mais je sais, ça, c'est compliqué. Les études sont là pour... On va terminer sur ce commentaire. Les études sont là pour te former. Gérer le stress fait partie de l'examen. Dans un taf, tu seras aussi soumis au stress. Oui et non, Sawen. Gérer le stress fait partie de l'examen, mais si les profs ne te donnent pas de moyens de gérer le stress, tu fais comment ? Parce que si tu dois gérer le stress personnellement, c'est pas le même niveau pour tout le monde. Tout le monde n'a pas grandi dans le même environnement. Il y a des gens qui ont grandi plus ou moins facilement dans leur vie. Et c'est important de penser à eux aussi. Et il y a des gens qui sont plus facilement stressés, donc qui perdent leurs moyens. Donc c'est compliqué. C'est compliqué. Je viens de lire la définition de la récursivité, ça a l'air cosmique. Sachez qu'il y a probablement la majorité des algos que vous utilisez au quotidien, typiquement des algos Google, Google Maps, peu importe, qui ont énormément de récursivité. C'est très puissant, la récursivité. Mais c'est très brainfuck quand on n'y est pas plongé. Très brainfuck. Allez, on va avancer, mesdames et messieurs. Nous allons avancer et nous allons parler de notre sponsor, Oné. Voilà. Donc, le sponsor du mug, on est très content de les avoir sur l'émission. C'est Oné. Ils nous permettent de produire l'émission. Hein. Vous savez qu'on a régulièrement des sponsors. Alors, Oné, qu'est-ce que c'est ? Alors, vous avez la commande, point d'exclamation, Oné. Oné dans le chat. Donc, sur Naotech, hein, vous le savez, on vous dira jamais de faire de l'achat compulsif. Hein, c'est pas du tout notre cam. On prend le temps, nous, avec la tech et aussi avec l'argent. Hein. Et l'argent et un projet financier, ça se construit, ça se planifie, ça se mûrit. Voilà. Oné va être intéressant effectivement pour vous si vous voulez par exemple mettre à jour votre matos photo, investir intelligemment pour aller plus loin dans des projets pro ou passion, hein, complètement. Vous pouvez être fan de pêche, hein, et si vous voulez acheter une super canne à pêche, eh bien justement, Oné va vous accompagner dans ces projets-là. Avec leur solution aujourd'hui, j'ai bien montré le site, tout va bien, c'est effectivement de payer vos achats en 3 fois ou 4 fois. Hein, avec leur solution 3 fois 4 fois Oné, c'est simple, rapide et sécurisé. Hein, au moment de payer en ligne, vous choisissez la solution 3x4 fois Oné, vous complétez le formulaire de demande et vous obtenez une réponse immédiate. Vous n'avez pas de document à envoyer. Ça fonctionne avec votre carte bleue Visa ou Mastercard sur plus de 1900 marques partenaires. Ça veut dire qu'en gros, Back Market, Boulanger, Samsung, Maxi Coffee, Cultura, Decathlon, vous êtes sur un de ces sites, Back Market typiquement. Et bien en fait, au moment de payer, vous aurez le 3x4 fois Oné qui va apparaître. Vous n'avez rien à installer, rien à faire, ça apparaît directement. Voilà. Et c'est avec ou sans frais selon les enseignes. Donc ça, c'est pas de notre sort à nous, c'est variable. Voilà. Certaines enseignes, va pas y avoir de frais et d'autres, va y avoir des frais. Tous les détails et toutes les réponses à vos questions sont dans le lien, hein, point d'exclamation Oné. Nous, c'est Oné est un partenaire du mug, mais on ne travaille pas chez Oné. Donc on n'a pas d'informations qui vont plus loin que ben voilà, la promotion qu'on en fait ce matin. Donc n'hésitez pas à aller voir le site web de Oné ou de leur envoyer un message sur Twitter. Leur compte Twitter, c'est Oné-SAV. Donc n'hésitez pas. Et on les remercie une nouvelle fois de nous permettre de produire l'émission. Et je vous propose qu'on passe à la cerise sur le croissant et on va discuter de la Pixel Watch. C'est parti. Nous allons donc parler de la Pixel Watch et d'un article un petit peu étrange de The Verge. Un article qui dit c'est OK si la Pixel Watch, donc montre Pixel qui a été annoncée par Google, hein, qui arrivera très bientôt, si la montre a uniquement un jour de batterie, d'autonomie. Et je suis un peu dubitatif. Pour moi, c'est un peu le genre d'article qui dit ouais, bon, allez, un jour d'autonomie, c'est OK, pas besoin de plus. Je suis là, ouais, bof. En fait, je trouve que l'un des principaux freins à l'acquisition d'une montre connectée, c'est justement l'autonomie. Alors, je sais que des gens s'en accommodent très bien. Moi, je m'en suis jamais vraiment accommodé. C'est pour ça que je suis très content de la Withings que j'ai, qui tient 3 semaines, 1 mois, sans la recharger. Je suis parti en vacances au Portugal, typiquement, pas besoin de la recharger. Je l'ai rechargée avant de partir au cas où. Et après, tranquille, pendant une semaine, voilà, pépère, j'avais toujours ma petite montre. J'avais mes petites notifs de temps en temps, parce qu'en fait, je suis très, très sectaire sur mes notifs. Hein. Il y en a le minimum possible. Mais en gros, je mets les notifs, par exemple, du calendrier aussi, pour pas oublier des événements, des choses comme ça, ou des rappels. Mais voilà, donc un article, effectivement, de The Verge, hein, qui dit la Pixel Watch aurait une batterie de 300 mAh et le dernier processeur de Samsung, pour les montres connectées. Et on aurait, a priori, 24 heures d'autonomie sur une recharge unique. Et il n'y a même pas de recharge rapide. Voilà. Là, l'autonomie sur les montres reste le plus gros des challenges. Et effectivement, si vous voulez traquer votre sommeil, avoir une montre connectée avec une batterie assez... si vous voulez traquer votre sommeil, il faut un minimum d'autonomie. Et effectivement, 24 heures, c'est un peu limite parce que ça vous laisse pas forcément la place, le temps pour la recharger. Heureusement, par exemple, sur l'Apple Watch, vous avez la recharge rapide. Donc le matin, vous pouvez la mettre le temps de votre douche, par exemple, et ça la recharge assez. Mais c'est vrai qu'on n'a pas encore, je trouve... atteint un vrai niveau d'autonomie suffisant. Des montres comme ça, il faudrait au moins 48-72 heures. Le jour où on atteint 48-72 heures d'autonomie, on est bien. C'est le minimum vital. En dessous, je trouve ça compliqué. Plus vous voulez de fonctionnalités, plus votre batterie, votre autonomie va être mauvaise. Hein, c'est un peu inversement proportionnel. Pareil, si vous voulez un always on, un écran toujours affiché, pareil, ça va être compliqué, il va falloir recharger souvent. Donc voilà, un article qui fait un peu le bilan des montres connectées de leur autonomie. Hein, je vais passer rapidement dessus. Mais ça amène un débat. Et j'ai envie de vous demander justement si vous, l'autonomie des montres connectées aujourd'hui est un frein pour vous ou pas, hein, typiquement. Et si vous en avez déjà une, est-ce que ça reste un truc chiant ou est-ce que vous en êtes accommodé? Comment vous appréciez votre montre connectée par rapport à ce sujet-là, hein? Ma Garmin autonomie 4-5 jours, recharge complète en 30 minutes, c'est très bien. Ouais, c'est cool. Mais après, la Garmin, elle est fat. J'aimerais bien une recharge rapide, 15-20 minutes, soit une autonomie de plusieurs jours avec GPS. Ma Samsung Watch 2 prend 2 heures de 0 à 100. Ah, c'est beaucoup trop. Elle tient un jour et demi avec le GPS et deux heures de sport par jour. Ouais. 30 minutes, c'est suffisant pour l'Apple Watch 7. Ouais, l'Apple Watch 7 a vraiment une recharge bien plus rapide. J'ai une Galaxy Watch 4, c'est une plaie. Ouais. Moi, c'est pour ça, j'adore la Withings. La Withings Scan Watch, alors vous n'aurez pas toutes les fonctions connectées. Hein. Clairement, on est loin d'une Apple Watch. Mais en fait, pour moi, ce que je faisais d'une montre connectée, c'est-à-dire principalement être un hub de notifs et de décentraliser certaines notifications, ça me va parfaitement. Et en plus, elle est jolie. Et ça, c'est cool. Je préfère vraiment le design de la Withings. J'utilise pas trop les fonctions de santé connectées dessus. Je m'y suis pas trop mis pour l'instant. Je m'y mettrai peut-être un jour en sachant notamment que Withings a ses données collectées en France de santé. Donc ça, c'est une vraie garantie chouette. Jamais, par exemple, j'enverrai des données à Fitbit vu que c'est Google. J'ai pas confiance. Le traquage publicitaire avec mes données de santé, c'est mort. C'est mort. Merci Fred SCH pour ton prime. D'ailleurs, oui, je ne l'ai pas dit, mais même si nous avons un sponsor, n'hésitez pas à nous soutenir financièrement, effectivement, soit avec votre Amazon Prime, donc ça vous fait un sub gratuit, soit en nous soutenant financièrement, hein, avec un Patreon. Donc même à partir de 1,20€, vous pouvez nous soutenir tous les mois et débloquer plein d'avantages. Donc n'hésitez pas. Voilà, c'est hyper important pour nous. Et 1,20€, c'est pas grand-chose pour une émission qu'on fait tous les matins. Qu'on bosse tous les matins, c'est 2 heures de boulot chaque matin avant l'émission, 1h30, 2 heures de boulot, donc c'est, voilà. La Pebble, ouais, moi Pebble, je suis hyper triste qu'ils aient arrêté. Pebble, excusez-moi pour le micro, c'était cette montre-là, attendez. La Pebble Steel, elle était assez jolie, hein. Alors attendez, c'est la Pebble Steel, ouais, c'était la Pebble Steel, en la revoyant avec du recul, je suis moins fan. Mais j'aimais beaucoup cette montre-là. Il n'y avait pas une Pebble ronde? Attendez, mais non, il y avait une Pebble ronde. Pebble Round Watch. C'était la Pebble Round qui était jolie. Ouais, celle-là. Celle-là, j'aurais adoré avoir la Pebble comme ça. Ouais. Et elle a été effectivement... Allô, l'autonomie. Ouais, par contre, effectivement, je crois que l'autonomie n'était pas dingo. Hein, 2 jours pleins d'autonomie, une journée de fonctionnement pour 20 minutes de charge. Elle avait quand même après cet avantage-là. Mais j'aimais beaucoup le principe des Pebble. Je trouve qu'ils ont bien géré l'écran e-ink coloré. Enfin, il y avait un vrai secteur à prendre là-dessus et je suis triste que ça n'ait pas marché, Pebble. Très triste. Elle a été tuée par l'Apple Watch. Ouais, ouais. Oui, mais avec la Watch, tu as Mickey qui te dit bonjour, ça c'est imbattable. Ah, jamais t'es trop fan de la Watch, Mickey. Merci Ise Vomitsu qui s'est abonné avec Prime. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci pour ton soutien. Ouais, moi c'est Withings. Si vous êtes intéressé par la Withings, on peut vous filer un petit lien affilié. Hein. C'est une montre que je recommande vraiment. Elle est trop bien. Et je l'ai prise d'occasion. D'ailleurs, je l'ai payée moitié prix. Au lieu de la payer 200 balles et quelques, c'est beaucoup trop cher, je l'ai payée quasi 100 euros. La Withings. Quasi moitié prix. Parce que je vous l'ai toujours dit, sur Amazon, vous avez le occasion et ça marche très bien. J'éteins mon Apple Watch la nuit car je supporte pas de dormir avec une montre. Moi, ça me dérange pas. Du coup, je la recharge 3 fois par semaine. Ok. Moi, ça me dérange pas du tout. Après, encore une fois, il faut savoir ce qu'on veut, être conscient des limites de son choix, de ses choix. Ouais, tout à fait. J'adorais Pebble. Link a un vrai potentiel comme sur la tablette Remarkable. Ouais, tout à fait. Moi, j'ai fait, effectivement, j'ai testé pas mal de trucs différents et là, j'adore. Voilà. Là, j'avoue que je bouge pas de Withings. J'aime beaucoup. Par contre, les verres de smartwatch sont super fragiles. Si je reprends un jour une watch, je mets une protection. C'est vrai. C'est vrai que souvent, ils mettent pas les mêmes verres que tu as sur des montres un peu haut de gamme. Donc, ça raye facilement. Moi, j'ai une Apple Watch que j'avais bien rayé à un moment. Voilà. Voilà, voilà. On va avancer. Hein, on va terminer l'émission. Je vous ai dit qu'on allait envoyer un message à l'Académie française. Eh bien, c'est parti. Pour ceux qui... Alors, pour ceux, on va relancer un petit générique cerise croissant. Donc, deuxième cerise, exceptionnelle. Pour ceux qui n'avaient pas suivi, on va envoyer un petit message parce qu'effectivement, le terme streamer, aujourd'hui, n'a pas été traduit correctement, mesdames et messieurs. Et ça, c'est un vrai problème. Donc, ce matin, avec Nowtech, nous allons corriger ce problème. Il y a eu un sondage tout à l'heure. Et nous allons donc envoyer à l'Académie française que le chat, ou plutôt le salon de discussion de Nowtech, a choisi le terme fluxeur. Et c'est parti, nous allons envoyer le message tout de suite. Alors, il faut d'abord que je trouve le contact de l'Académie française, contact que m'a envoyé très très sympathiquement la team Modo. Académie française contact, très bien. J'espère qu'on peut joindre une pièce jointe. Ça serait très cool. C'est parti. Hop. Académie française contact. C'est parti. Non. Ah, ça commence déjà. Monsieur. Mais si je mets barre oblique, ils vont pas. Je vais mettre slash. Slash. Prénom. Guillaume, bien sûr. Ok. Vous êtes avec moi. Hein. On est là. On va écrire le message. Adresse électronique. Ah, mais merde, je vais vous la montrer. C'est l'adresse. J'ai pas envie de mettre un Yop Mail. Je mets quel email? Bon, je vais mettre celui-là, tant pis. C'est un email pro, si vous envoyez des mails, à moins que ça soit pro, je vous le dis, on lira pas. Voilà, je vous préviens immédiatement. Alors, tic-tic-tic, le arrobase sur un clavier Windows, perdu. Attendez, parce que c'est un clavier mi-Windows, mi-Mac. Voilà, c'est bon. Adresse, ah, obligé, ah non, c'est pas obligé. Ok, pays, France, service concerné. Service concerné. Ah, vous voyez pas la checklist, c'est rigolo. Ok. Service concerné. Service du dictionnaire. On est d'accord, hein. Service du dictionnaire, ça me paraît pas mal. J'ai secrétariat général, administration du site, archives et documentation, service des prix littéraires, service des œuvres sociales, service du dictionnaire. Message. C'est notre moment. Bonjour. Bonjour. Je suis Guillaume Slash, un streamer sur la plateforme Twitch. Jusque-là, on est bon. Hein, on est bon. J'ai récemment vu la traduction proposée par vos soins du terme streamer. Or, j'ai vu la traduction proposée par vos soins du terme streamer. On pourrait mieux l'écrire, on reverra après. Or, traduction du terme streamer. Deux points. Alors attendez, on va reprendre l'article. Streamer est devenu streamer. Joueur animateur ou joueur en direct. Ouais, joueur ou joueur animateur. On va dire ça. Joueur. Perdu. Joueur animateur. Point. Or, je suis streamer mais je ne suis pas joueur. Pas joueur, car je parle le matin de technologie avec une communauté exceptionnelle. Ça, c'est vous. Ça, c'est vous, le chat. Donc, bonjour, je suis GameSage, un streamer sur la barre 22. J'ai récemment vu la traduction proposée par vos soins du terme streamer, joueur-animateur. Or, je suis streamer, mais je ne suis pas joueur. Il y a une faute. Joueur. Car je parle le matin de technologie avec une communauté exceptionnelle. Bien sûr. Voilà. Ça moutre. Bonjour, je suis Guillaume, ça, c'est bien. J'ai récemment vu. Ah, on peut pas mettre de. Voilà. Ok. Nous avons donc fait un sondage avec. Nous avons donc fait un sondage et il en ressort que le terme qu'une traduction appropriée pourrait être, yep là les deux petits chapeaux, pourrait être deux points fluxeur. Pourquoi, point d'interrogation, car le terme stream se traduit par flux en français et qu'on conserve la notion d'envoyer un flux d'informations sur l'internet. Vous avez vu, j'écris l'internet. Nous espérons donc ce changement et nous vous souhaitons une magnifique journée, Guillaume Slash. Est-ce que ça vous paraît bien ? Bonjour, je suis Guillaume Slash, un streamer sur la plateforme Twitch. J'ai récemment vu la traduction proposée par vos soins du terme streamer. On va essayer de mettre des guillemets, ça va être plus sympa. Joueur animateur. Or, je suis streamer professionnellement, on va mettre professionnellement, je l'ai mal écrit, professionnellement, mais je ne suis pas joueur, car je parle le matin de technologie avec une communauté exceptionnelle, bien sûr. Nous avons donc fait un sondage et il en ressort qu'une traduction appropriée pourrait être fluxeur. Pourquoi constater ? Oui, c'est mieux constater. J'ai récemment constaté. Vous avez raison. J'ai récemment constaté la traduction. Vous avez raison. Nous avons donc fait un sondage. Il en ressort qu'une traduction appropriée pourrait être fluxeur. Pourquoi ? Peut-être pas besoin du car. Pourquoi ? Le terme stream se traduit par flux en français et on conserve. Comme une boîte. La notion d'envoyer un flux d'informations sur Internet. Nous espérons ce changement et nous vous souhaitons une magnifique journée. PS, le terme diffuseur. Pas génial ? Ouais, mais t'inquiète. Le terme diffuseur passe aussi. Marche aussi. Voilà. Et nous conservons ainsi, vous avez raison, c'est mieux. Nous conservons ainsi, vous avez raison, c'est très bien. La notion d'envoyer un flux d'informations, nous espérons ce changement et nous vous souhaitons une magnifique journée. Le PS va être après. Guillaume Slash, PS, le terme diffuseur marche aussi. BAMGC. Et c'est parti! Diffuseur, ça va un peu parfois aux toilettes. Je sais que vous êtes plusieurs à dire ça, mais tout va bien. On va voir la définition de diffuseur dans le dictionnaire, elle ne correspond pas vraiment au terme streamer. Oui, mais tu peux avoir des termes qui veulent dire plusieurs choses en même temps. Guillemets au stream, j'ai pas mis de guillemets. Je finis les guillemets, et on va être pas mal. Nous souhaitons une magnifique. Le terme stream se traduit par flux en français. Hop! Et nous conservons ainsi la notion d'envoyer un flux d'informations sur Internet. Sur l'Internet, bien sûr. Nous espérons ce changement et nous vous souhaitons une magnifique journée. Guillaume Slash, PS, le terme diffuseur marche aussi. Ok. Et ben voilà, on est bien. Voilà, envoyé. On est bon. C'est parti. Le message a été envoyé. Bravo à tous. Nous allons donc apporter un changement en République. Oui, mais ça n'a pas de jambes, fonctionnel. C'est bon, c'est très bien. Voilà, donc c'est envoyé à l'Académie française, mesdames et messieurs. Nous, si j'ai une réponse, je vous la tweeterai ce matin. Voilà. Allez, on va vous laisser là. Merci à tous d'avoir suivi le mug. Chez qui je vais vous envoyer ce matin? Chez qui je vais vous envoyer? Alors, twitch.tv. Voyons voir qui est en stream. Je crois que Basti fait son stream du vendredi. On va vous envoyer chez Basti. On va vous envoyer chez Basti UI. C'est son stream du vendredi. Comme le matin, il n'est pas souvent là. Hein? Voilà. Allez faire des bisous à Basti. Chaque semaine, un nouveau mail pour les termes mal traduits. Non, mais celui-là, je suis très curieux de voir s'il répond. Très, très, très curieux. Je vous envoie chez Basti. Merci à tous d'avoir suivi le mug. Je vous fais des gros bisous. Et aujourd'hui, il va y avoir une nouvelle vidéo, normalement. A priori, hein, il devrait y avoir une nouvelle vidéo. Je ne dis pas sur quel sujet, vous verrez, bande de petits filous. Et qu'est-ce que je voulais dire? Non, c'est tout. Peut-être un stream ce soir de Jérôme, peut-être. Peut-être, on verra. Des bisous les gens, merci d'avoir suivi l'émission. Ciao, ciao, à plus.